Je propose de commencer par une petite prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Notre-Dame de la Sagesse, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Nous sommes au XVIIIe siècle, pas aujourd'hui, mais dans l'introduction. Nous sommes au XVIIIe siècle, et à cette époque-là, deux évêques se disputent la palme, on pourrait dire, de la prédication. Il s'agit de Monseigneur de Genève, François de Sales, et Monseigneur Camus, évêque de Belley. Et l'on disait de ces deux évêques, qui étaient d'ailleurs des amis, Monseigneur de Belley convainc, Monseigneur de Genève convertit. Malheur à la science qui ne porte pas à aimer. Vous avez, cette semaine, beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi sur les fondements de la foi, sur l'intelligence de la foi, et c'est bien nécessaire, car on aime dans la mesure où l'on connaît. Mais, ne nous arrêtons pas à cette connaissance, aussi séduisante, aussi admirable soit-elle, puisse cette science, cette connaissance nous porter à aimer. À aimer, aimer, c'est la vie dans le Christ. C'est toute la loi du Christ, la loi nouvelle. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces et de tout son esprit, il n'y a pas plus totalitaire, il ne reste pas grand-chose d'autre. Un des fruits de la charité, c'est la joie. Et vous l'avez peut-être un peu constaté que jusque dans les milieux catholiques, la tristesse est assez au rendez-vous. Dans nos âmes, bien souvent, la tristesse fait pousser ses rejetons. Nous ne vivons pas assez dans le Christ, car nous ne vivons pas assez de charité. La joie, disait Chesterton, est le secret gigantesque du chrétien. Et Léon Blois disait, à sa manière à lui, « Il n'est qu'une seule tristesse ». Et c'est de n'être pas des saints. Le plan que je vais suivre est assez simple. Il est assez curieux, la première question est un peu curieuse. Tout d'abord, je vais vous dire qui vous êtes. Je vais vous dire qui vous êtes. Première partie. Deuxième partie, nous allons essayer de préciser ce qu'est la vie dans le Christ. Et troisième partie, nous allons essayer de considérer quels sont les moyens ou les opérations propres, on pourrait dire, de cette vie. Vous savez que la vie se caractérise par des opérations propres. On respire, on digère, des opérations végétatives, on comprend, on veut, etc. Quelles sont les opérations propres, les actes propres de cette vie dans le Christ? Alors, première partie, qui êtes-vous? Imaginez que vous ayez un entretien d'embauche et que le DRH qui vous reçoit vous demande de vous présenter. Et vous, vous dites, je m'appelle Hector, je suis né en 1982, et voilà, et vous racontez votre vie. Il dit, non, c'est pas ça que je vous demande. Je demande qui vous êtes. Alors là, vous commencez à pas lire, c'est un entretien qui commence très très mal. Bon. Donc je m'appelle Hector, prenez un ton un peu plus convaincant, Hector, et j'ai 23 ans. Je suis né en, vous savez plus, comme un peu perdu, et il dit, non, c'est pas ça que je vous demande. Bon. Vous avez bien une petite croix autour du cou.
Oui, oui.
Alors, vous n'avez plus du tout le rapport. Et donc, vous êtes chrétien.
Oui.
Et c'est ça que je vous demande. Votre carte d'identité, c'est que vous êtes chrétien. Vos lettres de noblesse, c'est que vous êtes chrétien. Votre nom de famille, c'est chrétien. Lorsque Saint Maximilien Kolb offre sa vie au bunker de la faim et que le chef du camp, dans sa haine et dans sa rage, ne comprend pas ce sacrifice et lui dit « Mais qui es-tu ?» Il lui demande son nom et l'autre répond « Prêtre catholique, c'est son nom. » Et ça dit tout. Chrétien, c'est votre nom. Qu'est-ce qu'un chrétien? Christianus alter Christus. On vous a parlé arabe, je peux bien vous parler latin. Christus, c'est ce que ça veut dire. Vous connaissez un tiers de la définition du chrétien. Christianus, vous savez ce que ça veut dire. Deux tiers. Alter, Non, c'est pas ça. Altère, un autre, altérité. Le chrétien, c'est un autre Christ. Rappelez-vous, c'était sur la route de Damas. Et Saul allait à Damas, il emmenait des chrétiens pour les faire juger. Et puis il tombe. Tout le monde d'ailleurs croit qu'il tombe de cheval. Il n'y a pas du tout de cheval dans l'histoire. Et donc il tombe à terre et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit « Mais qui êtes-vous, Seigneur ?» Pardon, excuse-moi. « Je suis celui que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. » Et là, saint Augustin se pose la question, il dit « Mais non, pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout ça, c'est pas vrai. Jésus, il est ressuscité, il est monté aux cieux. Saul, il ne persécute pas Jésus, c'est pas vrai. Je ne persécute pas Jésus, je persécute les chrétiens. Mais le chrétien est un autre Christ. Et nous nous trompons souvent. Et nous, quand nous regardons au plus profond de nous-mêmes, nous ne voyons pas cette image, cette réalité du germe que le Christ a posé en nous, qui est notre véritable nom, qui est le Christ continué. Mais Jésus, lui, il le sait. Et c'est pour ça qu'il dit à Saul, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Lui, Jésus, il croit que nous sommes le Christ continué. Peut-être pourrions-nous le croire aussi. Rappelez-vous, cette parole de saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Rappelez-vous, cette parole que je cite de mémoire parfaitement, mais je pense que l'essentiel est là, « Je souffre en mon corps ce qui manque à la passion du Christ, » dit saint Paul. Et qu'est-ce qui manque à la passion du Christ? Rien du tout, elle est parfaite, la passion du Christ. Non, il lui manque en notre corps, en notre vie chrétienne, du Christ continué en nous, en notre corps, il lui manque ce que nous pouvons unir à la très parfaite passion du Christ. C'est ce que saint Augustin appelle le Christ total, dont le chef, la tête, est Jésus, et dont nous sommes les membres. Nous ne sommes pas seulement les frères, les amis, mais les membres de Jésus-Christ. Rappelez-vous enfin la réflexion de cet homme qui revenait d'Ars et qui avait voulu aller voir le curé, le célèbre curé convertisseur d'âmes, et qui revient et on lui demande « Alors, qu'est-ce que tu as vu ?» Il répond « J'ai vu Dieu en un homme. » Cela, c'est la réalité depuis notre baptême. L'Église le sait si bien qu'un petit enfant qui meurt après son baptême est enterré, ses funérailles ont lieu en blanc. C'est la couleur de la joie, de la résurrection, de la vie. Le problème, c'est que nous ne vivons pas nous-mêmes selon cette réalité. Nous ne sommes pas, il est vrai, les seuls responsables de cette faute. Il y a le péché originel, cette catastrophe mondiale, universelle. Tragique. C'est la tragédie de l'humanité, le péché originel. Vous connaissez l'histoire, la théologie du péché originel? Elle est très simple. Le péché originel, c'est l'histoire d'une pomme, de deux poires et de beaucoup de pépins. Et nous, nous essuyons les pépins. Et nous, nous mangeons les pépins. Le péché originel, sachez-le, c'est un dogme qui est profondément et largement rejeté, sinon explicitement, du moins dans la vie de tous les jours. Non, on n'est pas blessé, on reste très rousseauiste aujourd'hui. Il ne faut pas punir un enfant. Le plaisir dans l'ordre charnel du mariage est parfaitement bon, il faut le rechercher, il n'y a aucune déviation possible, tout va bien, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de tentation, il n'y a pas de... Bien sûr que le plaisir dans l'ordre charnel, dans le mariage, est bon. Mais quand il est l'écho, la conséquence, le fruit de l'amour des cœurs et de l'amour de Dieu dans les cœurs. Mais tout ne va pas aussi bien. Nous sommes blessés, nous sommes atteints par le péché originel. C'est la catastrophe. Alors les passions nous entraînent. Elles nous entraînent à des actes mauvais. Et puis, elles nous font adhérer à des erreurs. Quelquefois, dans les discussions, vous sentez bien que... Vous ne défendez pas vraiment la vérité, mais vous n'avez pas tellement envie d'avoir tort. Eh bien, les passions vous font dire des choses fausses. Et puis, il y a les sentiments, l'affectivité, qui nous font beaucoup de mal. On croit que c'est l'amour. Et ce n'est pas l'amour, ce n'est que le sentiment. Et puis, il y a toutes ces choses qui nous tiraillent, qui nous désunissent. Tout cela, et bien d'autres choses encore, est la conséquence du péché originel. Mais il y a aussi nos propres péchés. Nos propres péchés qui, comme la paresse, comme la colère, ont installé en nous des habitudes mauvaises qui nous détournent petit à petit de cette vérité, de cette réalité posée en germe en nous dans le baptême, qui est que nous sommes le Christ continué. Un exemple concret, je crois qu'on vous en a parlé, Dominique Morin vous en a parlé, toute la question relative à la pudeur. Je vais en parler, mais d'un autre point de vue, enfin, je n'étais pas la référence de Dominique Morin, mais je vais en parler d'un certain point de vue. C'est peut-être le même, hein. Sur là vous dites stop, complètement, arrête, on a déjà entendu. Nos propres péchés. Vous les garçons, faites attention à vos regards. À vos regards sur les affiches, à vos regards sur les jeunes filles. Rappelez-vous, parce que vous êtes chrétiens, parce que vous êtes baptisés, parce qu'elles sont baptisées, qu'elles sont elles aussi les membres du Christ. Si jamais vous avez à l'esprit, à l'idée, si jamais vous avez dans votre cœur la conviction, la certitude que ces jeunes filles, ces amis qui vous entourent, ces femmes dans la rue sont greffées sur le Christ, sont membres du Christ, votre regard sera différent, je pense. Et si vous, les jeunes filles, en vous habillant, vous faites attention au fait que vous êtes les membres du Christ, et si vous acceptez de croire que votre corps met en émoi les garçons, à cause du péché originel, à cause peut-être de leurs habitudes antérieures, si vous ne reliez pas, en d'autres termes, la façon de vous vêtir, de vous comporter, et vous, les garçons, de regarder avec la charité, avec l'amour de Dieu, avec Dieu présent dans l'autre, par le sacrement du baptême, alors vous ferez de l'autre un objet, alors vous ferez de l'autre ce que tout le monde fait. Et d'ailleurs, vous serez triste. Triste parce que d'un côté, ça vous est interdit, mais triste parce que de l'autre côté, vous avez bien envie. Je vous disais tout à l'heure, à vous les jeunes filles, j'insiste un petit peu là-dessus, si vous acceptez de croire. Je ne dis pas comprendre. Parce qu'aujourd'hui, comprendre, ça veut dire expérimenter. Aujourd'hui, comprendre, ça veut dire expérimenter. Je comprends ce que j'expérimente être ainsi. Et vous, par définition, les jeunes filles, vous n'expérimentez pas ce que le garçon ressent quand il regarde le corps d'une jeune fille. Ça, c'est sûr. Et donc, vous ne comprenez pas. Mais si vous acceptez de voir que les garçons, si par humilité, vous regardez ainsi le regard que les garçons peuvent porter sur vous, lorsque vous n'êtes pas assez habillé ou trop courtement vêtu ou trop transparentement vêtu ou trop, etc., moulamment vêtu, etc., Eh bien, si vous n'acceptez pas de regarder, de comprendre que le garçon fonctionne comme cela, vous direz, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça, j'ai tous des dettes, et vraiment c'est lamentable, ce n'est pas du chrétien ça. Et non, ce n'est pas le chrétien tel que Dieu l'a voulu, mais c'est le péché originel qui a donné cette fragilité. En d'autres termes, toute cette question de la pudeur et de la pureté, c'est principalement une question de charité. Est-ce que vous aimez vraiment, vous les jeunes filles, vos frères, les garçons, vos frères dans le Christ, les garçons, d'un amour de charité? Est-ce que vous, les garçons, vous aimez vraiment les jeunes filles d'un amour de charité? Et donc vous arrêtez de jouer au séducteur, de faire des petits sourires, parce que la jeune fille, elle est vulnérable en raison du péché originel, elle est vulnérable dans son cœur et dans ses sentiments. Et jamais vous lui faites un petit sourire, un petit clin d'œil, vous la prenez sous le bras, et pour vous amuser, et bien elle, ça démarre. Et si vous ne faites pas attention à ça, les garçons, et bien vous blessez l'amour de Dieu en elle et en vous. Je pense d'ailleurs que c'est une des causes, tout cela, du célibat un peu généralisé qui s'installe dans la jeunesse catholique. C'est une des causes. Il faudrait parler aussi de notre climat social qui blesse et qui voile en notre société tout entière cette réalité de la présence du Christ en vous, en moi. Et je conclue cette petite partie. Nous sommes donc un autre Christ. Parce que chrétiens, mais nous sommes un Christ défiguré par le péché originel, par les conséquences de ce péché plutôt, puisque le baptême a effacé ce péché, et par nos péchés personnels. Nous sommes des êtres désunis, des êtres éclatés. Il est intéressant de voir qu'aujourd'hui, éclaté, ça veut dire génial. Et éclaté, c'est le contraire. Éclaté, ça veut dire que toutes nos facultés partent dans toutes les directions, et on n'arrive pas à être unis. C'est la vie chrétienne qui va restaurer en nous le vrai visage du Christ. C'est la vie dans le Christ qui va faire en nous cette unification, cette unité. Rappelez-vous la parabole du semeur et de la semence. Au baptême, la semence nous a été donnée, elle doit maintenant grandir. Alors qu'est-ce que c'est que cette vie chrétienne qui a été comme initialisée au départ par le baptême et qui doit maintenant se développer? Qu'est-ce qu'elle est, cette vie chrétienne? Eh bien, c'est la vie de la grâce en nous. Très bien, mon père, c'est la réponse du catéchisme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la grâce? Que fait la grâce? Écoutez cette parole de saint Thomas d'Aquin, à la rigueur, ne retenez que cela. Si vous voulez retenir qu'une seule chose de cette conférence, retenez que cette parole de saint Thomas d'Aquin. Par la grâce, nous sommes faits conjoints de Dieu. L'essence, le cœur de la vie chrétienne, c'est d'être une vie conjugale avec Dieu. Si vous permettez, on va découper l'être humain en tranches de saucisson. On va l'éclater. Il a une intelligence, l'être humain, il a une volonté, il a une affectivité, il a un corps, il a une vie sociale. Et tout cela, nous le développons par des activités diverses. Quelle est la place de la vie de la grâce dans notre vie? Combien de temps nous y consacrons? Quel intérêt nous y portons? Eh bien, en comparant l'intérêt que nous portons à tel ou tel aspect de notre personnalité, de notre nature humaine, dans notre personne, eh bien, nous voyons que nous sommes vraiment des arriérés dans l'ordre de la vie surnaturelle. Des arriérés. De tout petits enfants. Mais pas au sens, le royaume des cieux est pour les petits enfants. Dans le sens de saint Paul, quand j'étais petit, je parlais en enfant et je me comportais en enfant. Et maintenant, j'ai grandi dans le Christ. Je suis un adulte dans le Christ. Et nous, bien souvent, nous sommes des enfants dans le Christ, au mauvais sens du mot, des arriérés. Parce que nous avons un préjugé. Nous avons un préjugé, nous en reviendrons tout à l'heure si nous avons le temps, qui est que la vie dans le Christ, au sens d'une vie surnaturelle, d'une vie d'union avec le Christ, c'est fait pour les prêtres, ça. C'est fait pour les religieux, les religieuses, c'est fait pour les saints, pas fait pour nous. Manque de chance, on est tous appelés à la sainteté. Mais c'est pas fait pour nous, c'est fait pour ceux qui portent une soutane ou un col romain. Mais c'est pas fait pour nous. Nous, c'est la vie dans le monde. Nous c'est. Faut bien aller au cinéma, faut bien en partir en soirée, boire un peu trop, c'est pas mauvais quand même, etc. Non, la vie dans le Christ, parfaite, comme vous dites, là, la vie d'union, la vie conjugale avec le Christ, c'est fait pour ceux qui se consacrent à eux. Mais pas à nous, pas à nous. La vie dans le Christ, si c'est une vie, ça progresse. Toute vie progresse. Quel est le progrès depuis notre baptême de notre vie dans le Christ? Je vous laisse répondre. Je vous signale que je vous pose quelques questions dérangeantes parce qu'on a dit qu'une science qui ne portait pas à aimer était malheureuse. Alors, comme nous, on veut le bonheur, on choisit une science qui porte à aimer. Et aimer, c'est poser des actes. Donc, je vous pose des questions sur vos actes pour vous rendre capable d'être heureux. Qu'est-ce que la vie dans le Christ? Avant de préciser, je voudrais dénoncer une double erreur. On a confondu pendant longtemps, dans certains milieux, en raison du jansénisme, je ne vais pas m'attarder sur les causes, parce que j'ai dit que j'allais parler de l'amour, que j'allais parler des actes qui nous permettent d'aimer. Donc je ne vais pas vous faire un truc intellectuel, avec des causes historiques, philosophiques, métaphysiques, théologiques. Non. Il y en a des causes. Elles sont intéressantes. Mais là, aujourd'hui, il faut aller au plus vite. Il y a une confusion qui a eu lieu, en France notamment, par le jansénisme, et qui a été développé, qui a été, qui a contaminé un peu beaucoup de monde en raison de certains manuels de théologie, certains, pas tous, qui est qu'on a confondu vie dans le Christ et vie morale. La vie dans le Christ, c'est aller à la messe le dimanche, c'est se confesser une fois par an, c'est faire sa prière du matin, sa prière du soir, c'est ne pas tuer, ne pas voler. Tout ça, c'est nécessaire. Mais c'est le prélude, c'est l'introduction. C'est l'introduction au tout début des préliminaires de la vie spirituelle, de la vie chrétienne, de la vie dans le Christ. On a confondu. Et donc, ça a une conséquence immédiate. C'est que si jamais on fait ça, 3 minutes le matin, 3 minutes le soir avec le bon Dieu, la messe le dimanche, la confession une fois par an, eh ben, je suis chrétien. C'est fait. C'est bon. Alors quand on nous parle de père spirituel, de retraite, mais de quoi ils ont besoin de parler? Qu'est-ce qu'ils vont dire là? Qu'est-ce qu'on dit aux prêtres là? À quoi ça sert? Pour la messe le dimanche, j'ai pas besoin d'aller voir un prêtre. Tu fais la messe le dimanche. Quand vous êtes une fois par an, il faut aller voir le prêtre, ça c'est vrai. Un peu pénible d'ailleurs. Mais bon, voilà, on vient nous toucher, puis c'est réglé, il n'a pas à nous parler davantage le prêtre. De quoi il se mêle?
mais c'est même de la vie dans le Christ, qui n'est pas une vie morale, morale, non pas au sens de saint Thomas d'Aquin, mais au sens contemporain du mot, le permis, le défendu,
qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas encore la vie dans le Christ.
Je vous dis, la morale de saint Thomas, c'est pas cela. Quand saint Thomas aborde la partie morale dans sa somme théologique, il commence par un traité qui est sublime, et dont on nous parle très peu, c'est la béatitude. Il nous parle du ciel. Pourquoi ? Parce que la vie de la grâce, c'est la vie du ciel commencée. C'est pas mal, non ? Ce que dit saint Paul quand il parle de la grâce, il dit, c'est pas une promesse de vie éternelle, parce qu'une promesse, c'est rien. C'est un acte, c'est comment dire ? Promesse, c'est d'ordre moral, si je vous promets, faites-moi confiance. Mais c'est pas ça la grâce. La grâce, ce sont des arts, A-2-R-H-E-S. Ce sont les arts de la vie éternelle. C'est-à-dire, c'est la vie éternelle commencée. Vous la possédez déjà. C'est la même vie qui aura des lois différentes, mais c'est la même vie essentiellement que vous vivez aujourd'hui et au ciel. Oh là, vous dites, c'est un peu drôle le ciel. Ben, c'est parce que vous n'avez jamais accédé encore à cette vie. C'est pour ça que vous ne trouvez pas ça drôle. Mais si vous y accédiez, vous verrez qu'on peut plus s'en passer. On a instruit des générations comme s'il n'y avait rien eu de nouveau depuis Jésus-Christ. Comme s'il n'y avait pas eu les sermons des béatitudes. Comme si Jésus n'avait rien dit avant la scène. Comme si saint Paul n'avait pas parlé. On a instruit des générations, et nous sommes peut-être contaminés, et peut-être nous nous sommes laissés contaminer, parce que finalement, c'est beaucoup plus confortable d'avoir un cadre, prière du matin, prière du soir, permis, défendu, on sait ce qu'on a à faire, on sait qu'on ne sait pas, et puis on s'arrête là. Mais la vie dans le Christ, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de stop, et ça, c'est gênant. Alors finalement, on est bien prêt de consentir, et c'est aussi notre faute, ce n'est pas la faute de nos anciens, c'est notre faute. De vouloir, de préférer un code de la route qui nous dit t'es hors jeu, t'es pas hors jeu, plutôt qu'une vie réelle d'union au Christ. Alors on a fait comme si Jésus n'avait rien dit de nouveau et on s'est arrêté à l'Ancien Testament, on s'est arrêté au Sinaï, on s'est arrêté au Dieu juge, au Dieu punisseur, on s'est arrêté à tout cet aspect de la vie de l'Ancien Testament qui n'est pas faux, bien sûr, c'est le Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais on s'est arrêté au décalogue. Et en plus, on l'a pris extérieurement, ce que ne faisaient pas les juifs fidèles de l'Ancien Testament. On est vétérotestamentaires, on est des vieux juifs. Voilà ce qu'on est. Mais on n'est pas encore chrétiens. Bien sûr qu'il y a des lois, bien sûr qu'il y a des préceptes, bien sûr qu'il y a des interdits, comme on dit, dans la vie chrétienne. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ça, c'est le cadre dans lequel seulement elle peut évoluer. Il faut des berges à une rivière. Mais la richesse de la rivière, elle est dans l'eau qui s'écoule. Elle n'est pas dans les berges qui retiennent l'eau. Ne faites pas de la vie chrétienne une vie morale au sens d'un cadre qui est ce dans quoi la vie chrétienne doit se dérouler et peut seulement se dérouler. Mais la vie chrétienne, c'est cette eau qui coule. Et qui ne dort jamais, qui ne devrait jamais dormir, qui est la grâce, et qui cherche sans arrêt dans vos âmes à s'infiltrer, à irriguer, pour faire grandir dans l'union conjugale à Jésus-Christ. Cette confusion, elle tend un peu à disparaître. Confusion de la vie morale et de la vie dans Christ. Elle tend un peu à disparaître, mais attention au mouvement du balancier. Surtout en France, où on est tout blanc, tout noir. C'est rarement très harmonieux en France. Un peu excessif. Sympathique, ça d'ailleurs, mais c'est un peu faux aussi. Attention au mouvement du balancier. Oui, la vie chrétienne, c'est pas des interdits, il n'y a pas de commandements, il n'y a pas de préceptes. Dieu est amour. C'est vrai que Dieu est amour. Mais qu'il y a des lois dans l'amour. Il y a des lois. Il y a la loi du pardon. Il y a la loi du don de soi, de la générosité, etc. Il y a des lois dans l'amour. Ça vous étonne ? L'amour n'est pas pure spontanéité. L'amour, il est attention, il est délicatesse, il est retenu. Donc il y a bien des préceptes et des lois. Elles sont bonnes, elles sont nécessaires. Mais attention au mouvement du balancier qui dit que parce que le jansénisme nous a peut-être, par époque, par moment, par famille, par maître, nous a peut-être fait croire que la vie chrétienne se réduisait à une certaine morale rigide. Attention au mouvement du balancier qui tend à faire exploser ce cadre, auquel cas il n'y a plus aucune vie dans le Christ possible. Aucune. Et puis on a fait une deuxième confusion, elle est plus grave, et elle est contemporaine. On a confondu vie dans le Christ et vie psychologique. Je vais m'attarder un petit peu sur ce sujet. Vie psychologique en quel sens ? En ce sens un peu difficile à définir, qui est grosso modo mes états d'âme, mes impressions et ce que j'appelle mon expérience. Donnons quelques exemples. Le rôle, on vous l'a dit plein de fois pendant cette session, pendant ce camp, le rôle de la sensibilité dans la prière. Je prie un quart d'heure devant Saint-Sacrement exposé, et là je sens une douceur, une intimité avec Dieu. Et je sors de cet instant où j'ai goûté, pour ainsi dire, la présence de Dieu en me disant « Ah, elle était belle, mon adoration !» Et puis une autre fois, je sors de l'adoration, c'est l'histoire de Sainte Jeanne de Chantal, qui sort d'une heure d'adoration et qui rencontre Saint François de Sales, qui lui dit « Madame, d'où venez-vous » Et elle répond « Je viens de m'ennuyer une heure avec Sa Majesté. » Phrase d'ailleurs très équilibrée. « Je viens de m'ennuyer une heure, ça c'est l'aspect expérimental, mais qui n'a pas beaucoup d'importance pour la Sainte. » Avec Sa Majesté, c'est la foi qui parle. Et nous, on s'arrête souvent au début de la phrase. « Oh, je viens de m'ennuyer une heure. Oh, ma prière, c'était zéro. Mais qu'est-ce que t'en sais, gros ballot, que c'était zéro, ta prière ? C'est quoi la prière ? C'est ton activité ? Non, c'est l'activité de Dieu en toi. Alors tais-toi, s'il te plaît. Tais-toi. T'as pas encore compris ce que c'est que la vie chrétienne. » Le rôle de la sensibilité dans la prière, c'est pas parce que t'es heureux dans la prière que ta prière est plus grande que quand t'es triste de prier. Non. C'est mystérieux ça, vous voyez ? Mais c'est vrai. La prière du Christ au jardin des Oliviers, c'était une prière formidable. Et pourtant il disait « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Deuxième exemple de confusion entre vie psychologique et vie surnaturelle, l'oubli et le pardon. Alors là, c'est plutôt féminin, ça. Une femme, mais il y a des hommes qui sont vraiment des femmes dans ce domaine, hein, je vous rassure. Ça a tendance d'ailleurs à se généraliser, ça aussi. L'oubli et le pardon. Il y a des personnes qui, tant qu'elles n'ont pas oublié celui qui lui a fait du mal, ou celle qui lui a fait du mal, pensent qu'elles n'ont pas vraiment pardonné. Il y a des personnes qui, tant qu'elles sentent, quand elle voit une personne qu'elle n'aime pas trop, qui leur a fait du mal, qu'elle sent quelque chose en elle, oh là, j'ai du ressentiment, alors ça veut dire que je n'ai pas pardonné. Mais non, gros ballot. Ça veut dire tout simplement que tu te souviens du coup qu'on t'a fait et que ça te chahute. Voilà. Ben, c'est le moment de dire, ben oui, ben, je pardonne. Et c'est tout. Et c'est tout. Le pardon, c'est un acte de la volonté soulevé par la charité. C'est ça le pardon. On croit que lorsque l'on sourit à quelqu'un que l'on ne supporte pas, c'est de l'hypocrisie. Mais c'est complètement le contraire. C'est complètement le contraire. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on est. Tout dépend, encore une fois, si jamais je souris parce qu'il faut bien sourire, c'est le code de la route de la vie chrétienne, ou si jamais je veux sourire pour le bien de cette personne et le mien. Alors si je le veux, le fait de sourire, c'est ça la vérité. C'est ça la charité. Oui, mais en même temps que je souris, j'ai envie de lui mettre une claque. Oui, mais ton envie, tu t'assois dessus, c'est pas très grave, ça. C'est pénible, ça c'est pénible. Et vous sentez bien qu'on est divisé, on est éclaté. Voilà, toujours la même chose. Mais c'est ce que vous voulez qui est vrai. C'est parce que vous sentez. D'ailleurs, vous le savez bien. Vous le savez bien. Il y a des jours où on se lève du pied gauche, d'autres jours où on se lève du pied droit. Et si jamais, entre le moment où on se lève du pied gauche et le petit déjeuner où on rejoint la famille, on ne fait pas un match de volonté en se disant « Allez, je rentre dans la cuisine en faisant un sourire. » Eh bien, toute la journée va être tristus. Toute la journée, on va être triste, on va bouder, on va envoyer le bol, on va dire « Ouais, allez, tais-toi, c'était nul. Bon. » Alors, si jamais on fait le choix de rentrer dans la cuisine en disant « Alors, vous avez bien dormi ?» avec un bon sourire, eh bien, vous verrez que tout change. Essayez. Autre élément de confusion entre vie spirituelle, vie dans le Christ, et vie psychologique. C'est ce qu'on appelle la providence et les signes de Dieu. Alors aujourd'hui, on voit des signes partout. Alors je fais par exemple une retraite, je suis un garçon, je fais une retraite dans un séminaire, parce que la retraite est organisée dans un séminaire. Le thème, c'est la vocation. Je dis, c'est intéressant, je vais faire cette retraite. J'y vais. Et puis, le premier entretien, on me parle de la vocation, de l'appel du Christ. Bon, je sors de la classe et je vois un prêtre en soutane à la porte. Oh là, c'est un signe, je suis appelé à être prêtre. Non, c'est le signe que j'étais dans un séminaire et qu'il y avait prêtre. Alors, évidemment, si jamais vous sortez de votre retraite, et que vous rentrez chez vous, et que votre première lecture spirituelle, vous ouvrez votre Bible, et vous tombez sur ces passages, « Viens, suis-moi », c'est un peu étonnant. Et puis que vous descendez de votre chambre, que vous sortez de votre jardin, et que là, un vieil ami prêtre arrive et dit « Ah, tiens, qu'est-ce que tu... Oh là, c'est beaucoup, là !» Et puis qu'il y a une troisième affaire, une quatrième, une cinquième, une sixième affaire, ça fait une convergence de faits qui mérite qu'on se pose la question. Mais ne voyez pas des signes partout. Parce qu'en fait, quand on voit des signes partout, c'est qu'on les cherche, c'est qu'on les veut, c'est qu'on se les crée. Quatrième exemple, puis on s'arrêtera là, de confusion, de vie surnaturelle, de vie dans le Christ, de vie spirituelle, on précisera ces mots, et de vie psychologique. Vous épousez quelqu'un de désordonné, et vous êtes extrêmement méticuleux, ordonné, c'est carré chez vous. Et vous épousez un souillon ou une souillonne, et vous épousez quelqu'un qui toutes les affaires traînent sans arrêt, les papiers sont toujours perdus. Alors il s'y retrouve ou elle s'y retrouve, mais c'est le bazar sans arrêt. Bon, défaut d'éducation, défaut de caractère, trait de tempérament, tout ce que vous voulez, d'accord. Mais comment on réagit à ça? Eh bien, au bout de 3, 4, 5 ans, 6 ans de mariage, on entend ces réflexions-là en disant ouais, de toute manière, il m'aime pas, hein, elle m'aime pas. Si elle m'aimait, elle fera attention. On a confondu un trait de tempérament, un trait de caractère qui peut se rectifier, mais qui est lent à rectifier, avec un manque de charité de l'autre. On a porté un jugement sur le manque de charité de l'autre, qui est peut-être vrai, mais qui est peut-être faux aussi. Alors qu'il s'agit simplement d'un trait de tempérament, d'un trait de caractère, qui est pénible là aussi, qui est pénible, mais qui est d'ordre psychologique. Au sens de, on a tous un trait, des traits de tempérament, de caractère qui plaisent à certains, qui déplaisent aux autres. Mais ce n'est pas du tout une atteinte à l'amour. Pourvu qu'on fasse effort. Mais ces efforts, quand c'est des habitudes très, très invétérées de cet ordre-là, bon, ils mettent du temps à obtenir des petits résultats. Donc ne confondez pas. La conséquence de cette confusion, elle est très grave. Elle, c'est la suivante. Si jamais je suis un peu fragile psychologiquement, si jamais j'ai des fragilités psychologiques, eh bien Dieu est un bourreau et moi je suis damné. Ah oui, parce que je confonds vie dans le Christ et vie psychologique. Si ma vie psychologique, elle est difficile, eh bien, Dieu est un monstre, un bourreau, un tyran, un juge qui me condamne, et moi, je suis perdu. Et si jamais vous êtes bien fort, bien équilibré, bien dans votre tête, tout va bien, eh bien, je suis un saint, qu'on me foute la paix, avec les directions spirituelles, avec les retraites, avec tout va bien dans ma tête. Là, je suis bien. Confusion. Voyez, les conséquences de ces confusions, elles sont très graves. Il faut quand même arriver à ce que c'est, maintenant que la vie dans le Christ. Vous connaissez ces expressions, vie spirituelle, vie surnaturelle, vie mystique, vie contemplative, vie intérieure, vie ascétique. C'est quoi tout ce bazar? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne? Alors ma définition, messieurs les abbés, vous ne m'en voudrez pas, elle est de ce matin. Je ne l'ai pas trouvée dans un livre. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, elle n'est certainement pas parfaite. Elle essaie d'exprimer, en fonction de ce que je viens de dire, les aspects importants qu'il faut retenir. La vie chrétienne ou vie spirituelle, c'est pareil. Celui qui n'a pas de vie spirituelle n'a pas de vie chrétienne. Point, c'est terminé. La vie chrétienne ou vie spirituelle est une vie intérieure, c'est-à-dire qui pose des actes intérieurs, une vie intérieure surnaturelle, par laquelle nous tendons à l'union à Dieu. La vie chrétienne, la vie spirituelle, est une vie intérieure, surnaturelle, par laquelle nous tendons à l'union à Dieu. Et nous y tendons de deux moyens, par deux moyens. Par un moyen de lutte contre le péché, et c'est la vie ascétique, la vie d'ascèse, la vie de privation, de mortification, d'effort. Et dans cette vie-là, eh bien, la partie effort, la partie activité de notre âme est plus grande. Et puis, il y a une autre partie de la vie chrétienne, de la vie spirituelle, qui est une vie où l'activité de Dieu va prendre le dessus sur notre activité à nous. Et c'est la vie mystique. La vie mystique, c'est pas « je la vois, elle est rose, elle me sourit dans le ciel ». C'est pas ça la vie mystique. La vie mystique, c'est la vie de tout chrétien normal. Monseigneur Combes, un des spécialistes de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dit « un chrétien qui n'est pas un mystique est un anormal ». Vous voyez, on fait un bel hôpital ici. Hein. La vie mystique, c'est donc la vie où l'activité de Dieu prime sur la nôtre. Mais vous vous rendez compte que c'est très important d'accéder à ce niveau-là ? Vous vous rendez compte que si jamais l'activité de Dieu venait à primer sur notre activité à nous, mais tiens, ce serait peut-être même plus facile. Ce serait plus facile la vie chrétienne, c'est Dieu qui fait le travail. Oui, c'est vrai. Et la vie chrétienne, elle se développe selon des degrés. Et au début, elle est plus manifestement ascétique, la part d'effort, la part de vertu. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on va confondre la vie morale et la vie chrétienne. C'est que nous n'avons jamais décollé de la première phase ascétique, corriger de nos fautes, sortir du péché mortel, c'est jamais vraiment corrigé. Et donc on n'a jamais eu l'expérience, au vrai sens du mot, de cette activité de Dieu en nous. Et donc, on se dit, en fait la vie chrétienne c'est quoi? Faut pas faire ci, faut faire ça. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. C'est la vie mystique, la vie chrétienne. C'est cette tension vers la vie mystique, c'est cet état dans lequel Dieu agit en nous. Dieu nous meut, pas comme la vache, mais meut, M-E-U-T, comme le Saint-Esprit. Par les dons du Saint-Esprit. Et là, on a une doctrine que vous connaissez sûrement, qui est la doctrine des vertus et des dons. La doctrine des vertus infuse et acquise par nos efforts, qui est plus, vertu morale notamment, qui est plus dans la dimension de la vie ascétique, et la grâce des dons du Saint-Esprit, où là, c'est Dieu qui nous meut directement. Petite illustration, qu'est-ce que c'est qu'une inspiration du Saint-Esprit? Comment le Saint-Esprit fait? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Ça m'intéresse. Et bien, je vous donne un exemple. Vous avez décidé, après le RJC, de faire oraison. Tiens, ça tombe bien, on en parle juste après. Vous avez décidé de faire oraison, de consacrer chaque jour à Dieu 10 minutes, un quart d'heure, c'est bien, c'est minimum. Un quart d'heure à Dieu, dans le silence, avec un livre, avec un texte, avec tout ce qu'on vous dira tout à l'heure. Vous avez choisi de faire ça. Et puis, un jour, vous allez à la messe, puis vous revenez, et là, il se passe quelque chose qui ne vous est jamais arrivé, c'est que, tout à coup, vous vous dites, tiens, je pourrais faire oraison maintenant. Et en plus, vous y êtes porté. Ça vous est facile et vous y éprouvez un certain attrait. Mais en même temps, vous restez libre de dire oui ou non. Vous dites, tout à l'heure, je vais d'abord prendre un petit café. Le problème, c'est que tout à l'heure, il n'y aura plus d'inspiration. Et que donc, vous allez vous retrouver au niveau de la vertu. Et que donc, il va falloir faire un effort pour aller faire oraison. Pour aller prier, pour trouver un quart d'heure. Vous voyez ? L'inspiration, c'est un acte de Dieu, un souffle du Saint-Esprit qui vient pousser la voile de notre âme dans le sens du bien. Ici, l'oraison, le don de piété. Vous voyez ? Et il vient nous pousser, nous aider, et ça nous est facile. Surtout dans les actes très difficiles, mais aussi quelquefois dans les actes de la vie ordinaire. Je ne m'appesantis pas. Donc, rappelez-vous, la vie chrétienne, c'est une vie mystique qui tend vers l'union à Dieu, qui a une part ascétique de mortification, de lutte contre le péché. Mais elle est plus chrétienne quand elle est plus mystique. Mais pour être plus mystique, elle doit être ascétique. Et plus les saints grandissent dans l'union à Dieu, plus ils ont une vie de dépouillement. Pourquoi? Parce qu'on sont des grands pécheurs? Non, mais parce qu'ils voient de plus en plus qu'ils sont bien attachés à toutes les petites choses de la vie de tous les jours. Et pour grandir dans cette union dont ils jouissent, au sens le plus fort du mot, eh bien, ils pratiquent les vertus ascétiques jusqu'à la fin de leur vie. Je voudrais maintenant devenir plus concret et parler de ses moyens. Je vous ai dit tout à l'heure, la troisième partie, ce serait les opérations de la vie. Toute vie a ses opérations. Quelles sont les opérations de la vie surnaturelle? Maintenant qu'on sait ce qu'elle est. C'est-à-dire, alors, c'est une analogie que je prends, et donc elle a ses limites, c'est une métaphore, une image, elle a ses limites. Quels sont les moyens, ce que j'appelle les opérations, quels sont les moyens pour vivre notre vie chrétienne à ce niveau-là? J'en ai 6. J'insisterai sur tel ou tel, et je laisserai tel ou tel de côté. Quels sont ces moyens? Commençons par le premier, si je retrouve ma feuille, et je ne la retrouve pas. Commençons par le premier. Le premier, l'oraison. L'oraison. L'oraison, c'est ce temps que l'on consacre à Dieu chaque jour. Un quart d'heure minimum, dit sainte Thérèse d'Avila. Un quart d'heure minimum, ça veut dire quand on n'a jamais fait, qu'on commence par un quart d'heure. Je vous conseille. Commencez pas par trois quarts d'heure, même si c'est très facile, très agréable, très doux. Soyez plutôt réguliers. Et quand on commence par trois quarts d'heure, souvent, au bout d'occasion, on s'arrête. Donc commencez par un quart d'heure et soyez bien réguliers. Un quart d'heure où l'on va consacrer tout son temps à Dieu. Où on va offrir son temps à Dieu. Et où on va laisser Dieu agir en notre âme. On va arrêter de l'embrouiller avec nos idées, nos impressions, nos expériences, nos idées sur tout et sur lui surtout. On va se faire disciple. On va se faire écoute. On va se faire, excusez-moi l'image qui n'est pas très belle, mais on va se faire oreille. Mais moi, j'entends rien. On m'a dit ça encore récemment. Attendez, moi, j'entends rien. Mon père, attendez, vous me parlez sans arrêt, à l'écoute. Mais vous avez entendu, vous, Dieu, vous parler? Alors, qu'est-ce que vous appelez entendu? Bonjour, je suis là, Père Augustin? Non, ça, j'ai jamais entendu. Peut-être vous. Moi, ça ne m'est pas arrivé encore. Mais écoutez, ça veut dire se laisser pénétrer par des vérités que Dieu nous a enseignées. Alors, céder d'un texte, par exemple, ou d'un beau tableau qui nous porte, qui élève notre âme. Et nous laisser imprégner de ces vérités, nous laisser faire, modeler. Mais mon père, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être souple, être docile, ne pas emmener le bon Dieu là où on veut, le laisser nous emmener là où il veut. Et il va nous donner tel éclairage sur telle parole de la Sainte Écriture, parce qu'on lui a donné ce temps et qu'il répond toujours. Non seulement il répond, mais il prévient par sa grâce. Et après il accompagne et puis il répond. Il est présent. La vie chrétienne est une vie conjugale avec le Christ. Et ce n'est pas la vie conjugale des conjoints d'aujourd'hui. C'est le Christ. C'est fidèle le Christ. C'est attentif. C'est délicat le Christ. Le Christ, il sait tout. Il vous connaît parfaitement. Il sait dont vous avez besoin. Non, mon père, c'est pas vrai. Il sait pas. Si jamais il savait, il ferait ceci, il ferait cela. Non, ça, c'est vous qui vous faites une idée du Christ. Ça, quand on rentre dans l'oraison, on le casse comme une idole. Et on dit, Seigneur, je suis là, agissez, faites. On essaie d'être passif. Mais quand la passivité entraîne à l'endormissement, on reprend sa lecture. Qui n'est pas une lecture spirituelle, au sens où je lis mon livre en présence du bon Dieu, mais qui est, je lis une phrase, un petit paragraphe, je m'arrête, je me repose, j'écoute. C'est-à-dire, je médite, je passe en mon cœur ce que mon intelligence accru. Je fais descendre au fond de mon cœur ce que mon intelligence a compris. Il faut que ça atteigne le cœur, là où nous sommes. L'intelligence, ce n'est pas encore vraiment nous. C'est une partie de nous-mêmes, bien sûr, très noble, très belle, mais c'est le cœur qu'il faut atteindre. C'est ça l'oraison. C'est très important parce que dans la vie mystique, on a dit que c'était Dieu qui agissait principalement. Si on ne réserve pas chaque jour dans notre vie un temps où Dieu on le laissera agir, comment saurons-nous jamais faire pour que Dieu puisse agir dans le quotidien de nos vies? L'oraison, c'est cela aussi, c'est une préparation à la vie mystique, et c'est même déjà la vie mystique. L'oraison, un quart d'heure par jour. J'ai fait une découverte depuis 2 ans, je vous en parle parce que peut-être que c'est votre expérience, comme on dit. J'ai fait une découverte depuis 2 ans, depuis 2 ans, en confession, j'entends souvent, oui mon père, je m'accuse de m'endormir souvent dans mon oraison. Dans la prière. Moi, j'ai du mal à comprendre. Pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, je me dis, on s'en fatigue aujourd'hui quand même. Là, ça devient. C'est quand même dur, visiblement. Et je me suis, et puis un jour, j'ai posé la question, j'ai dit, mais enfin, comment est-ce possible? Vous savez, mon père, les jouets sont fatigants, quoi, et puis, puis quand il fait nuit, quand on est allongé dans son lit, on tombe au sol. Ah, oui, d'accord, oui, je comprends, oui, d'accord. Oui. Mais vous faites en raison dans votre lit? Ah oui, oui, ah oui, d'accord, oui. Oui, non, je suis d'accord, oui. Alors, c'est pas un péché, c'est une erreur. Vous savez, c'est comme l'histoire de la dame qui va se confesser et qui dit « Mon père, je m'accuse d'un péché, un péché de vanité, enfin de coquetterie. Je me regarde dans la glace et je me trouve belle. » Et le prêtre lui dit « Madame, ce n'est pas un péché, c'est une erreur. » Donc, l'oraison, pourquoi je vous dis cela? C'est parce que l'oraison, elle est liée, puisque c'est nous qui faisons oraison. Et nous ne sommes pas des anges qui contemplons Dieu. Nous sommes des êtres humains avec un corps. Et le corps, il participe à l'oraison. Il y a une tenue du corps qui est importante pour l'oraison. Alors, il faut faire son oraison à genoux, sur les tessons de bouteille, les bras en croix? Non. Parce que si on pense à son corps tout le temps qu'on est en oraison, on ne fait plus oraison. On pense à son corps. Donc, on se met dans une position qui soit suffisamment confortable pour que on ne pense pas sans arrêt au mal le genou, mais suffisamment inconfortable pour qu'on ne roupille pas. La position du corps, le temps qu'on y consacre, le moment de la journée, le matin et le mieux. Et bien souvent, toute cette question de l'oraison se résume à une seule question. Est-ce que je veux vivre ma vie dans le Christ ou non? Le jour où je dis oui, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. C'est un choix. Oui, mais j'ai dit, non, tu n'as pas encore fait le choix. Fais le choix. Et bientôt, tu ne pourras plus t'en passer. Deuxième moyen de vivre notre vie chrétienne, la lecture spirituelle. C'est un point très important, et je voudrais déjà vous le faire comprendre, toucher du doigt, d'un point de vue même naturel. On demande à notre volonté d'aimer Dieu, de l'aimer. Allez, il faut que tu aimes Dieu, allez, aime Dieu, allez, sois plus courageux, sois plus pieux, va plus à la messe, etc. Mais on ne nourrit pas notre intelligence du bien. Du coup, la volonté, elle marche, elle est volontariste. Il faut faire, donc je fais. Mais il faut nourrir l'intelligence pour que, séduite par la beauté de la vérité, la volonté tend vers ce bien que l'intelligence lui présente. C'est décisif. Vous avez tous fait l'expérience. Si vous avez fait une retraite ou un RJC, ah ben oui, vous avez tous fait l'expérience, vous en faites l'expérience, que lorsque l'on a entendu parler de Dieu, dire des choses belles sur Dieu, vu des choses belles sur Dieu, et bien les 15 jours qui suivent, ils sont radieux, et Marie va prier, tout se passe très bien. Pourquoi? Parce que la volonté, elle est habitée par le bien. Et quand elle est habitée par le bien, eh bien elle y tend plus aisément. Rappelez-vous cela dans l'éducation de vos enfants plus tard. Il faut bien sûr dire aux enfants de faire des efforts. Il faut pousser l'enfant à faire des efforts. Mais il faut aussi lui donner l'attrait du bien. Ça l'aidera énormément et ça donnera un sens surtout à ses efforts. La lecture spirituelle, c'est cela. C'est nourrir son intelligence pour que la volonté soit attirée vers ce bien substantiel qui est Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'une lecture spirituelle? Eh bien, c'est plusieurs fois dans la semaine consacrer 5-10 minutes à une lecture d'un ouvrage, d'un livre, qui nous permet de méditer les choses de Dieu. Alors, donnez-moi, mon père, des exemples de lecture spirituelle. Peut-être que des prêtres, peut-être que des religieux vous ont dit « lisez la Bible ». Moi, je vous dis, commencez par un ouvrage, si vous avez du mal avec la Bible, et ça peut se comprendre. Commencez peut-être par un ouvrage qui est une mendication de la Bible par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a mangé l'Évangile, qui s'en est nourri et qui vous le donne, méditez. C'est plus facile quelquefois. Vous voulez des titres d'ouvrages? Je vous en donne 2-3. J'en donnais, je me suis un peu moqué des filles, je me moquais des garçons maintenant. J'en donnerai un ou deux pour les garçons, c'est-à-dire des livres qui font 3 pages, parce qu'un garçon, il va faire au-delà de 3 pages, il n'y croit plus au Dieu. Donc je donnerai des livres. Bref. Quel titre? Croire à l'amour du père Delvé, j'étais qui? Un livre splendide, très beau, très évangélique, très thérésien. Un autre livre, très
Delbe, comme le choix d'hier, D'E-L-B-E-E. Un autre livre qui est récent, il y a 2 ou 3 ans, aux éditions des Béatitudes, je suis très open, du père Philippe, qui s'appelle La liberté intérieure. Un très très beau livre, dont je ne vous cache pas que je me suis beaucoup inspiré pour cet entretien. Un autre livre, Les 100 lettres sur la prière, du père Caffarel. C'est bien pour les garçons parce que c'est 100 lettres, hein, et chaque lettre fait une page. Donc c'est visible. Et ça fait 100 jours, on est bon. Et après, on a oublié la première lettre, donc on peut le lire en boucle. Les livres aussi pour les garçons, c'est les livres de Saint-Alphonse-Marie de Ligori, Le grand moyen de la prière, La volonté de Dieu, etc. Ils font 20 pages, ils sont écrits en gros, et il n'y a pas des mots compliqués. Bon, je me moque un peu. Mais la lecture spirituelle, donc ce moyen de nourrir notre intelligence pour que notre volonté soit attirée dans la pratique du bien. Le père spirituel. Vous avez compris que dans toute cette vie, eh bien, on a besoin d'être guidé. Et s'il y a des paliers dans la vie, est-ce qu'on en est plus au niveau de la vie ascétique, la vie mystique, est-ce que c'est la pratique de la vertu, quelle vertu on doit pratiquer, est-ce qu'on doit plus laisser Dieu faire en raison, ou plus méditer, est-ce qu'on s'endort, est-ce qu'on ne s'endort pas, est-ce que c'est Dieu Saint-Esprit qui agit, est-ce que c'est nous, est-ce que... Tout cela, c'est le rôle du conseiller spirituel. Parce que nous, on confond un peu tout, on confond notre vie psychologique, nos envies, nos expériences, et donc... Le Père spirituel vient nous aider à voir où nous en sommes et surtout où l'action de Dieu veut emmener l'âme. Un Père spirituel, c'est quelqu'un qui vient nous aider dans l'union à Dieu. Alors, le pire moyen d'utiliser son Père spirituel, c'est de s'attacher à lui. Ça, c'est le pire. Ne vous attachez pas au Père spirituel, attachez-vous à Dieu par le moyen du Père spirituel. C'est très important. Bien sûr qu'on est reconnaissant envers ce qu'il fait, bien sûr qu'on l'aime beaucoup, mais attention, attachez-vous à Dieu par lui. Le Père spirituel, c'est nécessaire, Saint Bernard disait, celui qui se conduit tout seul dans la vie chrétienne, dans la vie dans le Christ, est conduit par un âne. Vous voyez le spectacle ? On a besoin de quelqu'un qui nous aide à connaître les lois de cet amour conjugal entre le Christ et notre âme. Un père spirituel, comment on le choisit ? On le choisit parce qu'on comprend ce qu'il nous dit. Il y a quand même des données d'ordre naturel qui jouent. Il y a des prêtres, on ne comprend pas très bien ce qu'ils me disent. On pose une question, on ne comprend pas. Ils ne parlent que de choses très très intello, très. On ne comprend rien. Et bon, ben ça arrive ça. Ça a déjà arrivé dans tel genre que vous ne comprenez pas. Ça arrive. Donc il faut mieux prendre quelqu'un qu'on comprend. C'est plus important. Quelqu'un en qui on a confiance. Et qui a confiance en nous, une relation de confiance qui est importante, parce qu'on va traiter de points importants. Alors, un père spirituel, c'est pas quelqu'un quand on choisit, à qui on doit raconter toute sa vie dans les menus détails. Non, non, on commence là-bas, on est, et puis on avance. C'est bien important. C'est bien important, je sais que c'est bien difficile, parce que les prêtres sont, comment vous dites aujourd'hui, overbookés, c'est ça ? Overbookés, c'est quand même très élégant. Les prêtres sont très chargés. Les prêtres ont beaucoup de fils et de filles spirituels, les prêtres ont beaucoup de demandes, et il y a peu de prêtres. Priez. Priez pour que le bon Dieu en mette un sur votre chemin, pour qu'il puisse vous aider à grandir dans cette vie d'union au Christ. Quatrième moyen, et je m'arrêterai à celui-là, quatrième moyen, la confession. Et après, il y aurait la communion, l'assistance à la messe et la dévotion à la Sainte Vierge. La dévotion à la Sainte Vierge, on s'appuiera sur le serment qui a eu lieu l'autre jour. La communion, on en parlera, un autre RJC, donc à l'année prochaine. On parlera de la confession, juste pour souligner un point. Pour dire qu'il y a une façon de se confesser qui n'est pas... Comment dire ? Ah, je prends les choses autrement. Il y a des gens qui se confessent régulièrement, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. C'est bien. Mais ils trouvent que la confession ne rapporte pas grand-chose, qu'ils disent toujours les mêmes choses, que le prêtre ne les aide pas beaucoup, et que c'est un peu la routine. Ils ne se servent pas de la confession comme un moyen de perfection. Ils s'en servent pour une lessive, pour une ardoise que l'on efface. Mais ça ne les aide pas plus que cela. Eh bien, c'est parce que vous vous confessez mal. Il y a une façon de se confesser qui nous aide à progresser dans la vie spirituelle.
La façon de se confesser, c'est, je ne parle pas ici des péchés mortels, vous savez qu'il faut accuser tous les péchés mortels, etc. Bon, et même la fréquence de ces péchés, etc. Bon, je ne parle pas de cela, je parle des âmes qui se confessent régulièrement, qui sont un peu sorties du péché mortel, du moins péché mortel accepté volontairement, pas des chutes de faiblesse. Des, bon. Et ces âmes-là, elles disent, voilà, c'est toujours la même chose, moi je dis, je suis orgueilleux, je suis paresseux, je suis égoïste, je suis gourmand. Et voilà, et en fait, ça évolue pas beaucoup. Et c'est parce que vous vous confessez mal. Parce que chaque fois que vous dites je suis orgueilleux, mais je suis désolé, tout le monde est orgueilleux. Alors, c'est pas un péché déjà, parce que c'est pas un acte, c'est un état que vous accusez. On n'accuse pas des états, on accuse des actes. Et puis, orgueilleux, c'est très général. Comment vous avez été orgueilleux? J'étais orgueilleux parce que quand un ami m'a dit non, non, tu as tort, c'est pas ça que le conférencier a dit, c'est ceci, et qu'on voit qu'il a raison, mais qu'on n'est pas content, et on bute, on dit voilà, j'étais opiniâtre, voilà, j'ai. Je me suis senti humilié publiquement parce que j'avais tort, mais je me suis enfermé dans mon petit raisonnement. Et je... Ah, là, ça devient beaucoup plus précis. Et on voit où l'orgueil prend sa racine. Et c'est beaucoup plus difficile aussi à dire. Mais du coup, la grâce de la confession va aller beaucoup plus profondément. Et vous allez être très éclairé sur vous-même, quand bien même le prêtre ne dirait rien. Cette confession sera beaucoup plus bénéfique. Ou une fille qui vient s'accuser, genre là, moi je suis un peu coquette, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ah oui, je passe 3 heures devant ma glace. Ah oui, ça fait beaucoup. Et là, on commence à avoir un collègue qui peut essayer de passer 2 heures seulement, simplement. Mais oui, on commence comme ça. Et comme c'est concret, et ça y est, on a un moyen d'être moins imparfait. Pas plus parfait, moins imparfait. Vous voyez, j'ai été gourmand, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je mange toute la journée, et tout le temps, je vais faire mes placards, et je mange que ce qui me plaît, etc. Ben voilà, et là on touche à l'égoïsme aussi, on touche à je fais ce que je veux, à l'indépendance, on touche à beaucoup de choses. Et c'est très important d'accuser ces choses comme celle-là. Vous ne vous inquiétez pas d'accuser toute la liste des fautes véniales que vous avez faites depuis votre dernière confession, depuis 7h du matin jusqu'à 10h du soir, heure à laquelle vous vous endormez. Non, inquiétez-vous de savoir ce qui représente votre âme, la physionomie de votre âme. Précisez-la, donnez les circonstances. Vous verrez à quel point ces confessions vous aident, quand bien même le prêtre ne dirait rien. Que l'absolution, bien sûr. Je m'arrête là. Il faudrait... Alors là, il y a un très beau petit livre qui s'appelle... Attendez, alors ça me vient. L'art de se confesser, du père Chéry. C-H-E-R-Y, un dominicain. Et... on peut le trouver à l'abbaye des chavannes réguliers de la Mère de Dieu, à la Grâce. Avis aux amateurs. C'est un très bon petit livre. Ah oui, pour les garçons, il fait 30 pages. Non, ça va. En 3 mois, c'est lisible. Alors, conclusion. Conclusion. Et puis après, on aura quelques instants pour des questions, si vous le souhaitez. Conclusion, je vous ai promis qu'on ne ferait pas quelque chose de très scientifique, de très théologique au sens de spéculatif. Je vous ai dit malheur à la science qui ne porte pas à aimer. Alors je vous dis ma conclusion, premier élément de la conclusion, aujourd'hui, on commence. Ok? On y va aujourd'hui. Aujourd'hui, on devient chrétien. Aujourd'hui, on commence notre vie dans le Christ. Pas demain! Je ne dis pas, au bout de demain, je prendrai une résolution pour après-demain. Non, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je vais passer un quart d'heure d'intimité avec Dieu devant son sacrement. Ça commence maintenant. Deuxième élément, après-demain. Vous rentrez chez vous, bon, vous êtes en vacances pour certains, mais vous n'êtes pas seul. Et dans la vie de tous les jours, quand vous serez dans votre turme d'étudiants, quand vous serez dans votre école débile de commerce, là, quand vous serez dans votre école débile d'ingénieur, où on fait tout sauf s'occuper du bon Dieu, eh bien, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Je plaisante, bien sûr, elles sont bien vos écoles. Mais, vous voyez ce que je vous dis. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. La vie chrétienne, c'est la vie dans le Christ, c'est la vie avec les saints. Quand vous êtes dans votre chambre, il y a le ciel qui est avec vous. Mais ce n'est pas rien, ça. Et c'est la foi, c'est la réalité, ça. Vous n'êtes pas seul. Ne dites pas, vous pouvez le dire quelquefois quand ça vous échappe, parce que c'est un peu lourd à porter. Mon père, on se sent vraiment seul dans ce monde de débiles, de dingos. C'est dur, vous savez. Mais oui, je sais bien que c'est dur. Mais pourtant, faites comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Allez jusqu'au bout de la phrase, ou comme Sainte Jeanne de Chantal. Sainte Jeanne de Chantal disait, je viens de m'ennuyer une heure avec Sa Majesté. La foi. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on lui disait, vous souffrez trop, ma sœur. Non. Tout ce qu'il faut, mais pas trop. Car trop, ça voudrait dire, Dieu me donne plus que je ne peux porter. Et ça n'est pas une vraie. La foi. Eh bien, vous vous dites pareil. Mon Père, c'est dur d'être seul, de ne pas se sentir compris, d'avoir des gens qui vivent complètement autrement que nous. Mais après, vous finissez votre vie. Mais je sais que je ne suis pas seul. Et c'est ça qui est divin. Et c'est ça qui est beau. La vie, c'est la vie éternelle. Elle est commencée par la vie de la grâce, ici-bas, sur la terre. Mais la vraie vie, c'est la vie éternelle. Et je voudrais terminer par cette phrase de Sainte Thérèse d'Avila, qu'on dit la grande, mais qui n'est pas plus grande que l'autre, parce que je ne sais pas qui sont les grands parmi les saints, il ne faut pas s'amuser à chercher. Sainte Thérèse d'Avila, qui, juste avant de mourir, a dit « Maintenant, mon époux, il est temps de nous voir. » Ainsi soit-il.
Merci, mon père. Aujourd'hui, pour poser une question, n'hésitez pas donc à lever la main. Yasmine.
Vous avez tous entendu la question ? Non. J'essaie de la résumer ? Alors, on me demande la vie mystique, c'est l'action de Dieu en nous. Et votre question, c'est comment peut-on savoir ?
On le voit au fruit, mais on ne le sent pas quand on a une vie mystique.
Et la question, donc ?
Est-ce qu'on peut sentir quand on a une vie mystique ou pas ?
C'est une question parallèle. Il n'est pas de l'essence de la vie mystique de le sentir. Il peut arriver que Dieu nous fasse sentir sensiblement ou il fait sentir surnaturellement son action. Je crois qu'on peut parler ainsi, les mystiques parlent ainsi. Nous, quand on lit les mystiques, les saints, on dit, eux, ils sentent plein de choses. Mais quand ils disent sentir, les saints, c'est pas sentir sensiblement, j'ai le cœur qui bat, je tremble, c'est beau, c'est bon. Non, c'est ils sentent surnaturellement l'action de Dieu en nous. C'est-à-dire, Dieu leur montre en leur vie où est la résistance face à la vertu. Et ils disent, oh, ah oui, je vois que je suis attaché à ça. Alors qu'ils n'avaient pas vu avant. Et ils voient bien une action de Dieu qui agit en eux. Ça, c'est pour la partie déracinée, les racines mauvaises. Où tout à coup, Dieu donne une lumière sur un mystère qu'on n'avait jamais eu auparavant. On a entendu 20 fois une parabole. Et un jour, dans leur raison, on la comprend. On la pénètre. On voit le rapport de cette parabole avec notre vie. Ça, c'est une grâce. Et elle est sentie, mais pas au sens sensible. Elle est reçue. On a conscience qu'on la reçoit, la grâce. Oui. Je réponds. Oui. Sans lettre sur la prière du père Caffarel aux éditions Parole et Silence. Il est à la bibliothèque à la vente, à la librairie. Oui. Oui. Dans l'histoire de la spiritualité, tous les pères spirituels n'ont pas toujours été des prêtres. Dans les couvents religieuses, c'est souvent la mère, l'abbesse qui est le maire spirituel. Voyez. Cependant, habituellement, il est meilleur que ce soit un prêtre parce que souvent, ce qui est capital, c'est que celui qui soit le père spirituel, ou la mère spirituelle, ou l'ami, ou je sais pas qui, bon, peu importe, ait une formation en théologie spirituelle. Et ça, c'est décisif. Et souvent, ce sont les prêtres qui ont fait ces études-là, vous voyez. Et ce qui est important, c'est que ce soit une âme qui vit habituellement au contact du bon Dieu. Donc c'est souvent un religieux, un prêtre, une religieuse, vous voyez. Et aussi, l'aspect important, c'est que, quand c'est possible, il est bon que le père spirituel soit aussi le confesseur. Parce qu'à travers la confession, il peut agir, vous voyez. Voilà, toutes ces raisons, mais ce n'est pas exclusif. Ça peut être quelqu'un d'autre qu'un prêtre. Mais il faut au moins les conditions de connaissance de la théologie spirituelle pour ne pas partir n'importe où. Allez, on commence. Eh ben, on fait une prière.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Nous avons à 10h20 deux ateliers. Immédiatement, lors de cette heure, on peut faire une conduite à Cholet, à la gare, pour ceux qui ont des histoires de billets de train. Donc, il y a une voiture qui part maintenant. À 10h20, nous avons deux ateliers. L'un sur les fins dernières par le frère Cécias Marie en salle Saint-Dominique. Et l'autre sur l'oraison en salle Saint-Padre-Pio. En attendant, vous pouvez aller à la librairie, consulter les ouvrages et vous inscrire pour les listes de covoiturage. Ensuite, messe solennelle dans le rite dominicain à 11h. Donc, je rappelle que pour ceux qui chantent, il n'y a pas d'atelier malheureusement. La répétition est directement dans la chapelle, dans la chorale. Thank you.